2, 3, 4, links, links, en links, en links. 1, 2, 3, 4, links.
Une histoire en marche ce soir dans le rendez-vous sur France Culture et sur la question de Birkenau, d'Israël, d'enfance, de paternité, de fiction et même d'Anouk Aimée. Avec Marceline Loridan-Ivens qui signe « Et tu n'es pas revenu », un texte en forme de lettre adressé à son père déporté à Auschwitz-Birkenau pour un récit qui retrouve 12 ans plus tard quelques-uns des accents de son film « La petite prairie au boulot », Benoît Lagan.
Et avec cette lettre, la cinéaste revient aussi sur la chronique d'un été de Jean Rouch ou encore l'influence de Joris Evans, grand documentariste, et parler aussi d'engagement et de cinéma.
19h30, place nette à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile et 19h35, plateau filiation avec Edgar Quéret et retour sur ses 7 années de bonheur ou comment travailler l'histoire intime en lien avec celle d'Israël par la nouvelle, c'est-à-dire sans passer par le déploiement du grand récit. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Svez que l'on ouvre avec le son du jour.
La plupart de nos visiteurs ont une expérience très émotionnelle et profonde quand ils se rendent à cette exposition et qu'ils se trouvent en face des corps. Ce que l'on regarde, ce sont des cadavres, mais ce que l'on découvre, c'est en fait soi-même.
Bonsoir Zoé Svez.
Bonsoir Laurent Gomard, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et il est du jour.
Tout à fait, puisqu'on entend la femme du docteur Von Hagens, baptisée docteur Lamor, je le rappelle, car aujourd'hui c'est ouvert à Berlin un musée de l'homme, entre guillemets, je le dis. Il est situé en plein cœur de Berlin, sur Alexanderplatz, et il présente 20 corps complets, environ 200 organes aussi conservés intacts grâce à un procédé inventé par ce fameux docteur Von Hagens, la plastination, qui consiste à retirer l'eau et la graisse des tissus et à les remplacer par du silicone et de la résine. Les corps sont installés dans différentes positions, celle d'un skateur en plein mouvement, d'une danseuse classique ou d'un gymnaste en équerre, afin de rendre encore plus perceptible la complexité des tissus, explique-t-il. L'installation de ce musée a été vivement combattue par les autorités du district du centre de Berlin, qui avaient saisi les tribunaux. Mais la semaine dernière, la justice leur a finalement donné tort. Je rappelle qu'en France, la Cour de cassation, plus haute juridiction judiciaire, avait confirmé en septembre 2010 l'interdiction de cette exposition de corps platinés, qu'elle jugeait contraire au respect, à la dignité et à la décence des personnes décédées.
Tout de suite, on passe au dossier du jour, Zoé, consacré au MUCEM. C'est le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée de Marseille, qui a ouvert en 2013. Il avait été sacré musée de l'année 2015 et pourtant, dans son rapport annuel, la Cour des comptes se montre très sévère envers l'institution.
Oui, elle lui consacre 30 pages, c'est presque un record. Et la Cour des comptes accuse dans ce rapport l'État d'avoir très mal géré ce dossier. Les débuts du projet ont été pour le moins houleux, il a mis des années à voir le jour. Ces atermoiements politiques et administratifs ont évidemment donné lieu à une explosion des coûts qui a augmenté de 82%, signale la Cour des comptes, qui accuse l'État aussi de ne pas avoir vraiment réfléchi au projet culturel du MUCEM, qui est ce qu'on appelle un musée de société, qui est né de la fusion de plusieurs collections, qui regroupe également un centre de recherche. Je rappelle que les expositions du MUCEM sont assez critiquées. Jean-François Chounier est le nouveau directeur du MUCEM. Il souscrit assez volontiers à ce constat et a d'ailleurs mis en route une nouvelle scénographie pour l'exposition permanente.
Donc la Cour des comptes, sur ce sujet-là, va complètement dans le sens de ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire de tisser des liens que la lente gestation du MUCEM et la fermeture à Paris du Musée des Arts et Traditions Populaires avaient quelque peu distendu. Donc c'est tout à fait dans le sens de ce que je suis en train d'essayer de monter. Sur l'exposition, on cherche à non pas à faire une exposition permanente qui durera des années et des années, mais à pointer non pas la totalité du champ méditerranéen, ça serait évidemment présomptueux et aberrant, mais de la traiter en travaillant sur des points forts, sur des sujets, sur des problématiques. Et une des problématiques que nous voulons renouveler, c'est celle qui a trait notamment aux grandes cités de la Méditerranée. Et c'est sur ce point-là que nous voulons approfondir un petit peu la réflexion, parce que on écoute aussi ce que dit le public.
Au-delà du projet scientifique, la Cour des comptes s'inquiète de la viabilité financière du musée à terme.
Oui, car les coûts de fonctionnement du musée auraient également été très mal évalués par l'État, qui est un peu le grand accusé de ce rapport. Les magistrats s'inquiètent en fait que le succès public des débuts du MUCEM ne soit pas vraiment assez fort pour perdurer et que l'équilibre économique du musée soit fragilisé à terme, d'autant que le mécénat reste vraiment trop faible. Sur ce point, Jean-François Pougnier défend son musée.
Qui sont nombreux, 2014, je ne parle même pas de l'année d'ouverture, c'est 2 millions de personnes au total, dont 650 000 dans les expositions. Donc un chiffre qui, vous le reconnaîtrez, un peu plus que de l'estime. Le deuxième point que pointe la Cour des comptes, c'est le fameux ratio des recettes propres par rapport au budget global de l'établissement. Alors, on est un établissement jeune, il y a encore des efforts à faire et nous les faisons et nous les ferons. On a, sur ces recettes propres, un taux qui n'est pas du tout ridicule puisque on est un petit peu moins d'un tiers de recettes couvertes par la billetterie, le mécénat, la location de salles, c'est-à-dire un pourcentage supérieur à celui que le Quai Branly à Paris, par exemple, ou le Centre Pompidou-Metz ont obtenu au bout de quelques années d'ouverture. Donc on ne se sent pas du tout coupable.
Donc Jean-François Chanier indique qu'il refuse d'augmenter le prix des billets du MUCEM. Aujourd'hui, il est de 8 euros. En rappelant quand même que Marseille est une ville plus pauvre que Paris, donc ça se justifie. Il explique néanmoins qu'il va évidemment travailler à trouver de nouveaux mécènes.
Et tout de suite, on passe au bref, Zoé.
Et l'on ouvre avec la plus grande chaîne de librairies chrétiennes américaines, la Christian Family Stores, qui est en faillite. 266 librairies, 4000 employés pour cette chaîne, mais 216 millions de revenus en 2014 qui ne suffisent pas à maintenir l'entreprise. L'entreprise cherche aujourd'hui des racheteurs pour tenter de préserver ses emplois.
L'ayatollah Khamenei critique American Sniper.
Tout à fait, dans un journal iranien proche du pouvoir, le guide suprême de l'Iran a dit voir dans le film de Clint Eastwood, très polémique aussi en Occident, je le rappelle, une propagande anti-musulmane. Le journal précise tout de même que le guide n'a pas vu le film, mais qu'il en a entendu parler. Ce film encourage un jeune, par exemple chrétien ou non-musulman, à harceler un musulman autant que possible. Le film est, je le rappelle, l'un des favoris des Oscars.
Et la dernière ?
C'est une histoire sympathique de rescapés d'Auschwitz, de musique klezmer, une histoire de Buena Vista Social Club encore plus incroyable que l'original, presque, on pourrait le dire. Tout a commencé quand Saul Dreyer, 83 ans aujourd'hui, ancien batteur, juif, rescapé des camps de la mort, apprend en 2014 la mort d'Alice Herzsommer, l'une des plus vieilles survivantes de l'Holocauste qui avait survécu au camp de concentration de Theresienstadt en jouant du piano pour les nazis. L'ancien batteur a alors souhaité retrouver d'anciens survivants de l'Holocauste, également musiciens comme lui, pour faire revivre la musique klezmer de son enfance d'avant la guerre. Une proposition qui a été considérée par ses enfants, ses amis comme complètement farfelue. Mais en fait, par le biais d'une connaissance, il a été mis en contact avec le pianiste Reuven Sosoznik, 85 ans, lui, très emballé lui aussi à l'idée de rejouer des chansons apprises dans sa famille. D'autres les ont ensuite rejoints, notamment des enfants de rescapés, Schnutowitz, qui n'est autre que la fille de Reuven, ainsi que Jeff Black, 64 ans, c'est presque un jeune pour cette histoire. Leur groupe s'appelle aujourd'hui l'Holocaust Survivor Band. Il connaît un grand succès local d'abord à leur synagogue locale et ils finissent par jouer dans une grande salle de Las Vegas en décembre dernier. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que le concert a été filmé et qu'un documentaire qui retrace leur histoire va sortir en avril.
Merci Zoé Sfez. Eh bien, on se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture.
Et n'oubliez pas que vous pouvez podcaster et réécouter ce journal de la culture sur le site de France Culture.
C'est dit, c'est fait.
Le rendez-vous.
Papa, tu te souviens qu'on s'est rencontrés une fois ? Cela faisait 6 mois qu'on était ici. Tu m'as demandé, et maman et Michel. Je me suis jetée dans tes bras et un Allemand m'a tapé dessus. Je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, tu avais disparu. Je t'aimais tellement que j'étais heureuse d'être portée avec toi.
Plateau retour avec vous, Marceline Loridan-Evans, cinéaste, écrivaine. On vous a découverte en 61 dans le documentaire de Jean Rouch et Edgar Morin, Chronique d'un été. Vous êtes l'auteur de nombreux documentaires avec Yoris Evans. On se souvient notamment de votre cycle de films tourné en Chine dans les années 70, sans oublier votre premier film de fiction avec Anouk Aimée, c'était La Petite Prairie au Boulot en 2003. On vient d'entendre un extrait en ouverture. Et ce que dit Anouk Aimée, d'ailleurs, fait écho au livre que vous publiez chez Grasset, Et tu n'es pas revenu, un livre en forme de lettre à votre père déporté à Auschwitz-Birkenau, comme vous, mais lui n'est jamais revenu. Vous avez témoigné dans le film de Jean Rouch en 61, vous aviez tourné une fiction à Birkenau avec Anouk Aimée. À quelle urgence cette lettre répondait-elle aujourd'hui ?
Un désir depuis longtemps de parler à mon père, de rendre compte d'un monde dans lequel j'étais revenue, dont il ne sait rien. Une sorte de bilan pour moi-même, une manière de le faire autrement, en lui parlant avec tout mon amour.
La plupart des livres sur le sujet évoquent difficilement le temps d'après la Shoah. Généralement, les livres s'arrêtent en 1945. Pour vous, je vous cite, « Vous ne pouviez pas écrire sans aller au-delà. » En quoi parler autant de l'après que du pendant était au cœur même de ce projet, Marceline Loridan-Evans?
Oui, je comprends, mais c'est parce que l'après, il est conséquent de l'avant et du pendant, surtout du pendant. C'est évident que j'étais extrêmement profondément marquée, et je pourrais presque dire comme Primo Levi, le camp d'extermination a été mon université d'une certaine façon, comme leçon de vie, mais néanmoins j'en suis revenue trop candide par rapport à cette vie aussi.
Benoît Lagane,
vous avez trop jeune.
Vous avez coécrit le livre avec la journaliste Judith Pérignon. Votre précédent récit autobiographique, c'était aussi avec une journaliste,
oui.
Isabelle Inandiac. Vous ne vous sentiez pas autorisée à écrire seule sur vous-même ?
Oui, c'est difficile pour moi parce que j'ai toujours eu le sentiment de jamais avoir été à l'école, en fait. J'ai tout appris dans la vie ou par ma propre curiosité intellectuelle ou par mes expériences et mes dérives aussi. Et pour ma folie au désir de culture, et même j'ai repris à un moment donné mes études dans les années 58, mais malheureusement je suis tombée amoureuse de mon professeur de philosophie.
Alors, ça arrive souvent.
Ouais. Alors voilà, il avait quelque chose comme 12 ans de moins que moi, évidemment. Mais pour moi, j'ai préféré finalement vivre cet amour que de continuer la philo.
Comment vous avez travaillé justement avec la journaliste Judith Pérignon ? Est-ce que vous avez mené un entretien avec elle ?
Oui, nous avons mené divers entretiens. Nous ne nous connaissions pas du tout. Donc il a fallu s'approcher l'une de l'autre. Et puis je lui racontais ses histoires. Je l'ai incité à lire des livres, mais elle a eu raison. Elle n'a pas cherché à savoir en dehors de moi-même, je crois.
Quel livre vous lui aviez conseillé ?
Oh, ben des livres sur la déportation ou des livres où on parlait de moi dans des livres qui existent. Parce que je me suis cachée dans un cercueil. Tout le monde ne se cache pas dans un cercueil.
Non.
Et puis voilà, des choses comme ça, pour qu'elle ait plus grande connaissance de moi. Mais elle a eu raison, elle a voulu faire par elle-même, par rapport à ce qu'elle entendait. Et je corrigeais au fur et à mesure, elle me donnait des pages, je les corrigeais, je les précisais, je disais non, là c'est une erreur, non on peut pas le dire comme ça. Donc on a travaillé ensemble intensivement et très cordialement aussi, dans une confiance qui nous a gagnés toutes les deux, voilà.
Benoît.
Et dans les dernières pages, vous écrivez, vous dites à votre père « Je me sens l'héritière trompée de tes illusions, un prolongement de toi, l'enfant né de ta fuite. » Qu'entendez-vous par là ?
C'est difficile à expliquer, là, comme ça, à froid. Je ne sais pas quoi vous dire.
Quelles étaient les illusions de votre père ?
Les illusions, par exemple, mon père était sioniste. Les illusions sur l'existence d'Israël n'ont pas sur la notion même de l'existence d'Israël. Je pense qu'il faut absolument légitimer l'importance et la nécessité pour nous, les Juifs, d'un pays. Parce qu'un peuple sans terre n'a pas d'audience. Vous voyez les Roms, par exemple. Donc c'était très très important d'avoir ce pays. Et puis aussi les illusions qu'il a pu se faire sur la France. Parce que il avait choisi la France à cause du sentiment de liberté qu'il y avait découvert à travers ses lectures en yiddish de Balzac, de Zola, et surtout après l'affaire Dreyfus, où la France avait reconnu officiellement et notablement ses graves erreurs. Et donc, pour lui, la France... Et pour lui, nous, enfants, d'abord, il nous a tout de suite donné des noms français. Et puis, je me souviens que quand je lui demandais si c'était vrai que les Gaulois étaient nos ancêtres, il m'a dit oui, si c'est ce que tu apprends à l'école, c'est vrai. Et puis, tu discutes pas et tu apprends l'histoire de la France. Il voulait qu'on devienne français, mais toujours avec un regard sur la Palestine, parce qu'il avait un frère qui avait émigré dans les années 20 au même temps que lui en Palestine, et toujours sioniste. Et il a ramassé et donné beaucoup d'argent pour acheter des terres en Israël. Et cette histoire de acheter des terres qui a créé une grande spéculation, même à l'époque dont ont profité les Arabes, parce qu'il n'y avait pas de Palestiniens, la notion de Palestine n'existait pas. C'était un mandat britannique dans l'Empire ottoman, voilà. D'ailleurs, les premiers négociateurs arabes qui se trouvaient à l'ONU au moment du partage des terres entre les deux communautés ont tout de suite refusé, vu qu'ils n'étaient même pas de ce pays. Donc oui, il a eu malheureusement pour lui beaucoup d'illusions du fait aussi que comment Israël aujourd'hui est renié, et tentative de renier ce pays en l'accablant au nom d'une phrase d'un livre et d'un film qui pourrait être entre deux juifs, ils ne nous pardonneront jamais ce qu'ils nous ont fait. Donc il faut bien qu'ils nous maudissent, qu'ils disent du mal de nous, qu'ils nous comparent à des nazis. Et comme ce ne sont pas des gens très clairs, très lucides, en France, par exemple, on joue sur la relation que la France avait avec ses colonies qui n'ont rien à voir avec Israël. Ça ne veut pas dire qu'Israël ne fait pas des erreurs, peut-être, mais la notion pour moi principale, c'est l'existence... d'un pays au cas où. Surtout qu'on ne reproche jamais à un Algérien, même de nationalité française, d'avoir un autre pays. Et pourquoi on le reprocherait aux Juifs? Mais c'est toujours la même chose, c'est la même histoire.
Edgar Keret, peut-être un commentaire à propos de ce que vous venez d'entendre.
Et voilà, ma c'est à identifier. A lot with things being said. I'm a child of two Holocaust survivors.
Moi, je suis l'enfant.
And when I grew up in Holocaust, Israel,
et lorsque j'ai grandi en Israël, mes parents m'ont toujours expliqué que j'avais de la chance d'être né dans un pays où je ne faisais pas partie d'une minorité et où je pouvais m'exprimer.
And of course, a part of this legitimacy, you see, was also that you have to be
bien entendu, cette légitimité signifie qu'en retour, on doit être sensible envers les autres minorités, notamment les gens qui n'ont pas de terre. Je crois qu'il y a deux enseignements qu'il faut tirer de l'Holocauste, notamment l'un des enseignements, c'est le fait que les Juifs doivent être forts, indépendants et à même de se protéger eux-mêmes. L'autre enseignement, c'est que les Juifs ne doivent pas maudire les autres et ils doivent faire montre de compassion envers les autres, compassion qu'ils attendent eux et qu'ils attendent dû pendant toutes ces années de persécution et de pogrom.
Oui, mais
Marceline Oridan,
je suis bien d'accord sur le premier point. Sur le deuxième point, il faut voir aussi que je comprends bien que l'enseignement de la pensée juive, je ne dirais pas de la religion, parce que je ne suis pas religieuse, de la pensée juive, conduit forcément à travers la loi, les 10 commandements, à cette compassion. Mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs non plus. Et il faut voir aussi qu'on est en face de gens qui ont une histoire aussi très dure. N'oubliez pas que le grand mufti de Jérusalem était hitlérien et que les seules minorités de cet endroit qui se sont alliées aux Anglais, ce sont les Juifs. Donc c'est pas si simple, il faut pas réduire. Et d'autre part, il y a une chose extrêmement grave. L'Union soviétique, à une époque, avait construit ce mot pour accuser les Juifs cosmopolites. Nous étions des cosmopolites, c'est-à-dire des gens sur qui on ne pouvait pas compter. Et puis, au fur et à mesure du développement de l'existence d'Israël et de la complexité des problèmes là-bas, ils en ont construit un autre, un monsieur Sakharovsky, entre 51 et 77, qui était le président, le chef du KGB russe, il a construit anti-sionisme. Et anti-sionisme, c'est tout d'un coup répandu dans le monde au bon gré, aux bonnes nécessités d'un certain nombre de pays européens. Et puis surtout, on voit bien qu'il y a un gouvernement avec le Hamas. Le Hamas, pour moi, ce sont des terroristes épouvantables qui font de la provocation. Mais on dit toujours c'est Israël. C'est toujours Israël qui est disproportionné. Mais quand eux, ils construisent des tunnels pour aboutir dans des appartements privés, ils ne sont pas disproportionnés. C'est considéré comme des combattants, ce qui est une honte, au moment même où l'Égypte vient de reconnaître le terrorisme qu'ils représentent. Donc j'ai beaucoup de choses comme ça, très compliquées, beaucoup plus compliquées que les Européens le pensent.
Edgar Keret.
I understand what you're saying, but what I want to say.
J'entends bien ce que vous dites, mais.
Is it the fact that you know that I've been with my son in various missile attacks?
Moi, j'ai fait l'objet de pas mal d'attaques de roquettes avec mon fils, et j'ai des proches qui ont été blessés dans des bombardements de terroristes. Mais moi, je veux pouvoir m'exprimer. Je ne pense pas que la situation palestinienne soit la faute d'Israël, mais je dirais que c'est la responsabilité d'Israël. Et la différence entre faute et responsabilité, c'est une différence importante. Les Palestiniens ont fait plein d'erreurs. Ce terrorisme, il est terrible, vous l'avez dit, et on nuit aux innocents, c'est inexcusable. Mais au bout du compte, lorsqu'il y a quand même 2 millions de personnes qui n'ont pas d'identité nationale, qui ne sont pas des citoyens à part égale avec les Israéliens, eh bien, il faut trouver une solution. Et même si ces gens-là ne sont pas les meilleurs partenaires du monde, il faut quand même qu'Israël lance un compromis, parce que Israël, c'est quand même le fort, c'est le plus fort des deux parties. Donc, moi, j'ai un problème avec le gouvernement actuel d'Israël, c'est qu'il est passif. Ce gouvernement israélien attend que la paix nous arrive comme ça du ciel. Mais je dirais que pendant très longtemps, nous avons renoncé à des négociations possibles. On n'a jamais abordé les négociations de manière sérieuse ou optimiste. On a continué à établir des colonisations. Tout ça, c'est malheureux. Et qui en souffre, eh bien, c'est les Palestiniens, mais aussi l'État d'Israël. Et les mesures qui sont prises à l'heure actuelle, ce n'est pas une voie d'avenir, ce n'est pas une voie qui nous permette d'espérer et d'avoir confiance en l'avenir.
Ce qu'il y a, c'est qu'on ne parle pas à armes égales. Vous vivez là-bas, vous voyez des choses que j'ignore, je ne peux pas me mêler d'une politique dans laquelle je ne suis pas. Et d'autre part, d'ici, quand vous venez en France, vous ne voyez pas non plus la France telle qu'elle est, ou comme moi en tout cas, comme moi qui vis dedans. Et donc, je comprends très bien, mais ce qui est fondamental pour nous, juifs, c'est que les États arabes qui sont liés les uns aux autres à l'ONU cessent d'avoir le pouvoir qu'ils ont à ce point-là pour tout combiner. Je ferai tout pour l'existence d'Israël, parce que vous n'avez aucune idée de ce qu'a été l'Europe, même si vous avez l'expérience de vos parents, et vous ne savez pas ce qui peut revenir. Et personne de nous ne sait ce qui peut revenir. Pour l'instant, c'est quand même une série d'assassinats de juifs pour lesquels les gens ne bougent pas vraiment.
À ce sujet, Marceline Loridan-Evans, comment vous regardez la France, puisque vous dites la France telle que je la vis aujourd'hui?
Vous ne la connaissez pas. Mais je ne sais pas, je ne savais pas que c'était vraiment une interview politique.
Ça l'est devenu au fur et à mesure. Ça le devient au fur et à mesure.
Moi, je suis là pour un livre.
Mais c'est un livre important, qui a même une résonance politique aussi. Comment vous regardez la France aujourd'hui? Puisque vous en parliez justement à l'instant,
sinon je ne serais pas permis. Moi, je suis très inquiète. Voilà. Mais je ne suis pas la seule. Hein. Mais je ne me cache pas le visage comme une autruche. Voilà. Je vois la réalité, je vois des sous-courants islamistes existants depuis longtemps dans notre pays, qui se sont plus ou moins pas encore manifestés. Je vois des assassinats de juifs très graves, très scandaleux même, je dirais. J'entends dans les rues de Paris mort aux juifs, que j'ai même pas entendu pendant la guerre. J'entends « juifs, va-t'en, la France n'est pas à toi ». Non, moi je suis française, je suis revenue des camps, c'était très dur de revenir dans un pays qui vous avait... Pour mon père, c'était le retour à l'envoyeur, vous voyez. Et puis pour moi, la fille du retour de l'envoyeur.
Benoît.
Alors chaque soir, nous demandons à nos invités de nous soumettre une idée de son. Et en ce qui vous concerne, Marceline Loridan-Evans, voici ce que vous avez choisi.
On avait des indications, on a bien trouvé le son qu'il fallait.
Voilà. Identification de ce son et sa signification. Pourquoi vous souhaitiez entendre ce son-là?
C'est le son d'un moulin à café. Et quand j'étais petite, j'adorais les moulins à café. D'ailleurs, j'en ai plein chez moi, de toutes sortes. Et j'adorais le matin cette odeur de café moulu comme ça à la main. Et j'ai eu cette idée comme ça, par souvenir d'un autre temps. Merci.
À propos de cet autre temps, Marceline Loridan Evans, je sais qu'à un moment donné, quand vous rencontrez Joris Evans, donc qui va être votre mari avec lequel vous avez travaillé bon nombre de documentaires, vous signez à l'époque votre premier documentaire, c'était un film engagé sur l'Algérie. Algérie, année zéro, un film qui a été longtemps interdit. Et vous parlez de ce film comme d'une mise à l'épreuve, c'est dans le livre. Une mise à l'épreuve, c'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire que, d'abord, j'ai fait ce film avant de connaître Joris. Mmh. Hein. J'ai fait avec un ami qui s'appelle toujours d'ailleurs Jean-Pierre Sergent. Parce que moi, j'étais une porteuse de valises. Vous savez ce que c'est une porteuse de valises? Ce sont les gens qui se sont scandalisés de la position de la gauche française à l'époque, qui a envoyé le contingent français en Algérie et qui a aidé directement le FLN. J'ai eu chez moi jusqu'à 1 milliard d'argent qu'il fallait compter pour partir ailleurs. J'ai été arrêtée par la police, j'ai été perquisitionnée pendant 5 heures. La seule chose qu'ils ont trouvée chez moi, c'est un livre qui s'appelait « La question » sur les tortures des Français en Algérie, mais du côté des tortures, je crois qu'il y en a eu de toutes parts. Et j'ai aidé, j'ai passé des frontières parfois. Pour la première fois que je suis retournée en Allemagne, c'est pour eux d'ailleurs, avec beaucoup de mal, de difficultés pour moi-même. Et donc, je ne peux pas être soupçonnée de rien. On ne peut pas me dire que j'étais raciste. J'ai aidé les Algériens. J'ai été interrogée 18 heures rue des Saussées à la DGSE. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Et comme ils n'ont rien trouvé chez moi, parce que je n'étais pas une conne...
ça, on veut bien le croire.
Ils ont été obligés de me relâcher. Et le film que j'ai fait, pour finir, c'est un film dont les conclusions sont terrifiantes, puisque c'est un militant qui fait un meeting au bord d'une plage avec beaucoup d'Algériens. Il doit être peut-être même religieux et qui dit que tout État qui s'installe sans justice est un État infâme. Et pour ça, les Algériens ne montrent pas beaucoup ce film. Ils ne montrent jamais d'ailleurs.
Benoît, dernière question.
Oui, vous évoquez dans votre livre le film Chronique d'un été de Jean Rouch et Edgar Morin. Côtoyer Jean Rouch, quel impact ça a pu avoir sur votre propre façon ensuite de faire du documentaire?
Ça a été fondamental. Ça a été fondamental parce qu'avec Jean Rouch, on a été les premiers à tourner en France en cinéma direct, en son synchrone dans la rue, avec une caméra qui ne pesait que 12 kilos, un Agra qui en pesait 12 aussi. Hein. C'était léger pour nous. C'était vraiment la découverte du cinéma direct. Je ne croyais pas, bien que j'ai été une protagoniste de ce film, j'ai jamais cru à la notion de cinéma vérité, parce que la vérité, c'est toujours subjective. Et oui, c'est comme ça que j'ai découvert. Et moi-même, j'ai fait beaucoup d'émissions pour la télévision française, l'ORTF, en cinéma direct, pour Zoom, pour des émissions comme 16 millions de jeunes, que j'ai quittées parce que j'aimais Joris.
Joris Evans.
Joris Evans, il devait partir au Vietnam. Il avait déjà fait un premier film. Et je voulais apporter autre chose dans ce film. C'est pas que je voulais changer son style, mais j'étais dans la modernité. Et la modernité, c'était effectivement les plans séquences, le cinéma direct, l'importance du son autant que l'image, etc. Donc j'ai eu, à nous deux, lui était un grand metteur en scène du cinéma muet, de l'image. de la réflexion sur l'image, sur le mouvement. Et à nous deux, nous avons fait 15 films en Chine, historiquement très importants. Voilà.
Le rendez-vous. Rendez-vous. La chronique.
Marceline Loridon-Evens et Edgar Quéret, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique du jeudi de Xavier Delaporte, chronique Place de la Toile pour le rédacteur en chef de Rue 89, avec qui on est en partenariat.
Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Sur les conseils d'une amie, je me suis lancé dans la lecture du dernier livre de Stefan Zweig, Le monde d'hier, qui sont ses mémoires. Alors, c'est un livre tout à fait passionnant en lui-même, d'abord parce que Zweig écrit admirablement bien, avec un mélange de précision et de lyrisme qui répare l'ennui que peuvent provoquer l'un ou l'autre quand ils sont seuls. Ensuite, parce que Zweig parle d'une période elle-même passionnante qui s'étend de la fin du 19e siècle dans lequel naît Zweig jusqu'à la montée du nazisme qui provoquera son suicide. Période d'autant plus passionnante quand elle est vécue par un Viennois juif ou un juif viennois, je sais pas ce qu'il faut dire. Une manière d'être doublement au cœur de l'histoire. Enfin, parce que Zweig, même ouvert à la psychanalyse, il fait très souvent référence à Freud, est d'une pudeur telle qu'il rechigne à parler de lui et préfère faire le récit d'une génération, le nous, supplantant sans cesse le je, ce qui n'est pas non plus désagréable. Mais ce livre est tout à fait intéressant quand on lit depuis notre époque, l'époque de ce qu'on appelle, sans doute à tort, mais c'est une autre question, la révolution numérique. Pourquoi, me direz-vous, quel rapport entre Zweig et le numérique ? C'est vrai que ça saute pas aux yeux comme ça.
Non.
Parce que le monde du numérique aime postuler la rupture, qu'il nomme d'ailleurs disruption, un anglicisme en passe d'entrée dans la langue française. Nous serions en train de changer. Tout va plus vite. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus comme nous autres les vieux. Il n'y a qu'à regarder le rapport naturel qu'ils entretiennent aux machines. Il n'y a qu'à voir comment ils font plusieurs choses en même temps. Et même comment, habitués à envoyer des textos toute la journée, ils usent maintenant de leurs pouces là où nous utilisions nos index. C'est ce que veut dire Michel Serres quand il parle de la petite poussette pour parler de la jeune fille d'aujourd'hui. D'autres vont plus loin même et envisagent du même coup une post-humanité. Et je ne parle pas seulement de doudingues barbus qui se nourrissent de pilules. Je parle par exemple tout simplement des dirigeants de Google. Ce qui nous renvoie, nous, à notre lourdeur, à notre difficulté à nous adapter, à notre lenteur. Bref, revenons à Zweig. Dans les premières pages du Monde d'hier, Zweig développe une théorie. En substance, il défend l'idée d'une rupture générationnelle, et même d'une rupture entre deux mondes, d'où sans doute le titre du livre. Ce qui distingue le monde de ses parents du sien, explique Zweig, c'est que l'ancien monde était un monde de la sécurité, de la lenteur, du ventre bedonnant. Il a fallu, dit-il, les machines, la radio, les voitures, le téléphone, pour que tout s'accélère. Mais il a fallu aussi le sport, la psychanalyse. On y revient, vous avez remarqué, Laurent, que toutes les minutes, maintenant, je mets la psychanalyse. Parce que comme ça, je vois que votre attention se réanime.
Oui, sinon je m'endors complètement, c'est ce que vous voulez dire.
Bah oui.
Alors, psychanalyse, ça y est, je
voilà,
reviens à la
oups,
vie.
Ça vous aiguille. Et cette accélération, donc, elle a provoqué une rupture quasi anthropologique, selon Zweig, une distinction très nette entre deux générations qui n'ont plus le même corps ni le même rapport au monde. Il me semble qu'il y a là, pour nous, deux enseignements majeurs. Vu de 2015, on a du mal à considérer cette rupture générationnelle entre Zweig et ses parents. Et pourtant, lui l'a senti, au plus profondément de son être. D'où l'idée que ce que nous vivons aujourd'hui comme une rupture n'en est peut-être pas une tant que cela. Peut-être toutes les générations ont-elles le sentiment de vivre des ruptures avec la génération précédente, mais aussi avec la suivante. D'ailleurs, Zweig a des développements tout à fait intéressants où il dit envier la génération qu'il suit, donc en gros celle du tout début du siècle, dont il estime qu'elle a bénéficié d'une quasi-révolution dans les rapports hommes-femmes et donc les rapports à la sexualité, ce qui est presque cocasse vu d'ici. Donc, la lecture de Zweig nous invite à prendre quelques distances avec tous les discours qu'on nous sert aujourd'hui. Et même concernant la vitesse et le sentiment d'accélération dont parle Zweig. Zweig considère son monde comme celui de la vitesse, à la différence de celui de ses parents. Que dirait-il d'une autre Zweig ? Là encore, on peut supposer que depuis longtemps, la première révolution industrielle au moins, mais sans doute d'autres périodes aussi ont connu cela, les gens ont eu l'impression de vivre en accéléré. Et de devoir donc s'adapter à une nouvelle vitesse, toujours vertigineuse, par définition vertigineuse. Alors sans minimiser les potentiels, enfin les particularités de notre époque, je suis donc ressorti de la lecture de Zweig parfaitement apaisé, tranquillisé par cette idée presque hollandienne que le changement, c'est toujours maintenant.
19-20, le rendez-vous.
Plateau Filiation avec vous, Edgar Quéret, écrivain, scénariste, cinéaste. On se souvient de Méduse, récompensé de la Caméra d'Or à Cannes en 2016. Vous êtes auteur notamment de Sept années de bonheur. C'est disponible aux éditions de l'Olivier. Avant, la version poche prévue pour juin prochain chez Point avec une nouvelle inédite. Ce sont donc des nouvelles toutes écrites au jeu, J-E, découpées en sept parties qui correspondent aux sept premières années de votre fils, Benoît.
Alors, il y est question de la rencontre de vos parents, la rencontre avec votre femme, des dialogues brillants et hilarants avec votre fils, des chauffeurs de taxi, de la maladie de votre père, de la vie d'écrivain dans les avions et ce désir ironique de la normalité dans un pays qui ne l'est pas, Israël, et qui travaille toute votre littérature. Le recueil s'ouvre sur la naissance de votre fils, Lev, et se ferme un jour de sirène aérienne alors que vous roulez avec votre femme et votre fils et qu'il vous faut sortir et vous allonger au sol.
Dans la première nouvelle, donc, vous êtes à l'hôpital et vous attendez la naissance de ce fils. Un attentat vient d'avoir lieu et un journaliste insistant vous dit « C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas vu l'attentat. » La réaction d'un écrivain, ça aurait été bon pour mon papier, quelqu'un d'original avec un minimum de vision. Cette injonction du point de vue de l'écrivain, on imagine que vous la connaissez souvent, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut être un écrivain israélien sans être politique, en fait ? Edgar Quéret.
Je dirais que c'est impossible, parce que la réalité est tellement dure que même lorsqu'on est apolitique, eh bien on dit quelque chose de la politique. Et c'est même une expression politique extrême, parce que l'écrivain, lui, doit se référer à la réalité. Et la politique, ce n'est pas une notion qui est extraterritoriale par rapport à la vie.
Vous exprimez beaucoup sous forme de tribune dans la presse et certains vous reprochent en revanche de vous désengager dans votre littérature en travaillant l'ironie, l'absurde, parfois le merveilleux et puis le petit geste quotidien. Est-ce que c'est une façon pour vous de contrer les grands récits à l'œuvre dans la littérature israélienne qui vous a précédé ?
L'épopée,
qui est donc la forme littéraire israélienne la plus répandue, c'est en fait la réflexion d'un sentiment de désir, de besoin. Israël, c'est un pays qui est sorti du trou noir de l'Holocauste, de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'un avenir où il y a un trou noir avec, je ne sais pas, une attaque nucléaire iranienne ou telle autre menace ou apocalypse qui pourrait nous tomber dessus. Donc ce pays, c'est le sandwich des limbes, parce qu'il n'y a rien en dessous, rien au-dessus, et il y a simplement cette petite tranche de pain en quelque sorte. Et donc, lorsque l'on recherche quelque chose, et lorsque l'on recherche la continuité et la longueur, on écrit évidemment des épopées qui couvrent cinq générations. Moi, ce n'est pas mon style d'écriture. Moi, je n'écris que pour décrire ce que je vois autour de moi.
Marceline Oridan-Evans, je sais que vous connaissez un petit peu l'univers d'Edgar Quéret. Vous avez vu son film Méduse, vous avez lu quelques nouvelles. Est-ce qu'il y a un aspect qui vous a plus particulièrement marqué ? Une nouvelle, par exemple ?
Pas spécialement une nouvelle, mais le style. Il me rappelle l'écriture de la Mittel Europa. Il y a une tentative vers cette manière à la fois ironique et quotidienne des beaucoup de romans yiddish. Donc il y a cet esprit, mais pour moi, je trouve ces nouvelles formidables. Et puis la présence aussi de la guerre dans la vie quotidienne. Mais en même temps, je pense qu'il faut qu'il aille plus loin.
Plus loin, c'est-à-dire ?
Voilà. Plus loin...
Vous voulez en faire un écrivain politique, Marcel Evans.
Non, pas du tout, non, mais un peu plus de sarcasme, un peu plus de... Le sentimentalisme, il est là, ça va. mais je ne sais pas... Il y a une profondeur supplémentaire.
Edgar Quéret.
Well, what I can say is that I think that writing is a place of refuge, a refuge, and I think that everybody looks for something else when he writes.
Tous les écrivains sont différents les uns des autres. On écrit pour des raisons différentes. Moi, je vis dans une région particulièrement dure et lorsque j'écris de la fiction, j'utilise mon écriture pour aimer les gens autour de moi, non pas pour me distancier d'eux. Parce que si je veux dire des choses négatives sur l'humanité, il suffit que j'ouvre la fenêtre chez moi, hein, puis je regarde ce que je vois.
Et vous l'écrivez dans les journaux ?
Yeah, and you could write in the newspapers. Oui, c'est ça.
Je pourrais peut-être puis écrire dans le journal. No, but I'm saying there are great artists like Lars von Trier.
Il y a de très grands artistes, Lars von Trier, par exemple.
I don't particularly feel connected to their films because
I think that un petit peu éloigné de ces films parce que ces films ne font que montrer que les éléments négatifs. Mais moi, je les connais, ces éléments négatifs. L'art, pour moi, c'est une espèce de religion laïque, si vous voulez. Là, je recherche la bonté chez l'homme. Et quand j'écris de la fiction, je me pose la question suivante. Si les extraterrestres viennent d'une autre planète pour détruire l'humanité, est-ce que, en lisant cette histoire, ils vont changer d'avis? C'est pour ça que j'écris, vous voyez. Bon, parfois, j'arrive pas à répondre à la question, mais c'est en tout cas ce que je vise.
Pour autant, la réflexion de Marcelino Rudon-Evans me fait penser à une propre réflexion de votre mère. C'est peut-être une question de génération. Votre mère est née en Pologne et en lisant votre premier recueil traduit en polonais, elle vous a dit « Tu n'es pas un écrivain israélien, pas du tout. Tu es un auteur polonais en exil. » Comment vous entendez cette phrase aujourd'hui ?
I must say that I was very much influenced by a Eastern European Jewish writers like
très influencé par Bashevis Singer, Shalom Aleichem, cet écrivain de la mythologie Europa, écrivant en yiddish, comme vous l'avez dit. Et pour moi, c'est logique que je reflète cette sensibilité qui en fait le résultat des berceuses de mes parents et de ce que j'ai entendu de leur bouche.
Mais c'est pas un reproche, c'est une qualité.
I would be very worried if you were not critical.
Ah, je serais inquiet si vous n'étiez pas critique.
Mais je ne suis pas critique, au contraire. Peut-être le mot sarcastique a été mal interprété ou trop fort par rapport à ce que je voulais dire. Mais non, pas du tout. Je sens quelque chose qui doit encore éclater, c'est tout.
I say that when I would be disappointed if you would not be critical.
Donc je dis que je serais déçu si vous n'étiez pas critique parce qu'une femme juive, et toutes les grandes femmes juives que j'ai rencontrées, je les ai vues critiques et comme vous, elles m'encouragent à faire plus et aller plus loin.
Oui, mais justement, je voudrais vous poser une question. Elle a si mauvais caractère, votre femme?
Elle a bien lu. Marceline Loridon-Evans, c'est une bonne lectrice.
Well, you know, in my subjective perspective, she's terrible.
De mon point de vue, purement subjectif, elle est atroce. Really nice. Mais mes voisins disent que c'est une femme géniale. Bon.
Une question sur la langue, peut-être, parce que cette langue s'invite dans ce recueil de nouvelles. Vous en avez écrit les premiers jets en hébreu, qui est votre langue d'écriture, puis vous les avez traduits en anglais, retravaillés, et la traduction française par Ruel Olivier est en quelque sorte une double traduction. Pourquoi fallait-il en passer par l'anglais et donc s'éloigner paradoxalement de l'hébreu pour passer au jeu autobiographique, Edgar Keret?
Well, when I started the writing 27
years
ago,
il y a 27 ans,
I only wrote fiction.
Je n'écrivais que de la fiction. Je ne m'intéressais pas du tout aux essais, au journalisme ou autre. Et lorsque mon fils est né, j'ai commencé à écrire des articles, des essais, et cette notion m'a fait peur, parce que pour moi, l'écriture, c'est un lieu de rêve, un refuge. L'écriture, ce n'est pas quelque chose qui vous engage à la réalité. Donc l'idée de publier de la non-fiction en Israël, ça m'a toujours fait peur. J'écris des essais politiques assez forts, mais écrire à propos de mon fils ou de ma femme, c'est autre chose, parce que c'est une espèce de conversation que l'on peut avoir avec quelqu'un qu'on ne connaît pas à bord d'un train, mais qu'on ne raconterait pas à un voisin ou à un oncle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il me fallait cette distance. Et par ailleurs, il fallait que je sache que ce livre ne soit pas publié en Israël. Tant que ma mère est de ce monde, ce livre ne sera pas publié en Israël. C'est un livre qui est plein d'amour, certes, mais si ma mère doit lire une mauvaise critique disant qu'il y a des chapitres sur mon père qui sont ennuyeux, ben je m'inquiète pour la vie de ce critique. Je m'inquiète parce que ma mère, c'est quelque chose.
vous comprenez cela, Marceline Loridon-Evans?
Oh, bah, ça, alors, il a une vraie mère juive.
Bah, oui, c'est le cas de le dire. Alors, il y a une très courte nouvelle qui revient sur votre première nouvelle que vous écrivez alors que vous êtes appelé à l'armée. Et de cette nouvelle, très courte évidemment, eh bien, on ne sait rien puisque vous l'abordez surtout par son premier lecteur, votre frère. De quoi s'agissait-il dans ce premier texte, Edgar Keret?
La première nouvelle, je l'ai écrite pendant le service militaire obligatoire. Pendant 36 heures, je me trouvais seul dans une pièce. Il y avait des rotations. Pendant l'une de ces rotations, j'ai écrit, j'ai imprimé, je me suis retrouvé avec une page tapuscrite, donc, et je voulais un lecteur. Mais les autres soldats que je côtoyais ont refusé de lire ce que j'ai écrit. Donc, j'ai pris un autobus, je suis allé voir mon frère, et je lui ai dit, « T'es mon frère aîné, il faut que tu lis ça, il faut que tu me dises si ma nouvelle est bonne ou pas. » Et c'était très tôt le matin, je l'ai même réveillé. Il est arrivé avec son petit chien et il m'a dit, je vais le dire pendant que je promène le chien. Et le chien lui avait pas envie de se promener, bizarrement. Généralement, quand on promène un chien le matin, le chien n'a qu'une chose en tête, c'est faire ses besoins. Bon. Et très rapidement, je vois mon frère qui marche en lisant mon texte et il traînait le chien par la laisse. Bon, c'est une nouvelle très brève. Et lorsqu'il a fini de lire, le chien a pu faire ses besoins et mon frère m'a regardé avec les yeux tout plein de larmes, il m'a dit, c'est l'un des plus beaux textes que j'ai jamais lu. Est-ce que tu as un autre exemplaire? J'ai dit oui. Il m'a dit, génial. Il a ramassé la merde du chien avec la feuille de mon texte et il a foutu ça à la poubelle. Et là, j'ai compris que je voulais être écrivain.
Oh bah mince alors.
Alors qu'au début, vous aviez une formation pour être physicien. Comme à tous nos invités, on vous a demandé de nous apporter un son, Edgar Keret. Vous vous êtes exécuté. C'est très bien pour nous. Voici ce que vous avez choisi.
Le processus commence donc le 19 novembre 1977. Anwar el-Sadat, engageant une formidable partie de poker, arrive à Jérusalem. À ce moment-là, tout est possible, y compris le pire. On lui présente Moshe Dayan. Il pouvait lui dire « Bonjour, monsieur le ministre ». Mais c'est un Shalom Moshe que les officiels israéliens entendent méduser. Il rencontre Golda Meir et elle, que l'on a si souvent brûlée en effigie dans les rues du Caire, il lui baise la main. Dans des milliers de foyers israéliens, on pleure, le miracle s'est produit. Mais c'est peut-être en se rendant à Yad Vashem, le mémorial aux martyrs juifs, qu'Anwar el-Sadat abat une carte déterminante à l'adresse du monde entier. Pour la première fois, un arabe fait le lien entre l'Holocauste nazi et la nécessité de créer un État d'Israël. Plus que tous les discours, c'est cette visite qui va profondément marquer les esprits en Israël.
Edgar Keret, en fait, vous vouliez le discours, nous on n'a eu que le commentaire. En quoi ce son vous a marqué? Vous aviez 8 ans à l'époque.
I grew up in a revisionist house.
Moi, j'ai grandi dans un foyer révisionniste. Mes parents ont tous deux voté pour Menachem Begin, premier ministre israélien. Et lorsqu'il a été signé cet accord de paix avec l'Égypte, il y a beaucoup de gens qui se sont élevés contre cet accord. Et plein de gens pensaient que ça n'est pas duré, que les Égyptiens sont en train de nous rouler dans la farine et qu'il faudra recommencer tout à zéro. Et je me souviens avoir écouté cela à la radio, et il y avait tout un débat sur ce sujet. Et mon père a dit, pour être juif, il faut espérer que les choses puissent s'améliorer. Les juifs n'ont pas les moyens d'être pessimistes. Pendant 2000 ans, on a cru on a pensé qu'on pouvait revenir sur cette terre. Par conséquent, il faut que l'on pense qu'il y ait l'espoir de la paix. Je me souviens de ça. J'avais 12 ans. Et je crois que ça a affecté beaucoup de décisions que j'ai prises par la suite.
Et aujourd'hui, l'homme que vous êtes, comment il comprend l'appel de Benjamin Netanyahou aux Juifs de France pour venir s'installer en Israël et la réponse de Valls, la France sans les Juifs de France n'est pas la France. Edgar Keret.
Well, I think first that you know.
Après une série de bombardements en Israël, ce serait bizarre si le premier ministre français disait aux immigrés français de revenir en France. Je crois que les gens choisissent leur lieu de vie, non pas par sécurité, mais par identité, en fait. C'est un lien identitaire qui les amène à vivre sur tel ou tel territoire. Moi, je ne me vois pas vivre ailleurs qu'en Israël, parce que mes parents ont dû faire un sacrifice pour arriver en Israël, pour pouvoir y vivre, et ainsi de suite. Mais en même temps, je ne pense pas que les Juifs français aient besoin de fuir la France pour aller ailleurs. Avec le peuple français dont ils font partie, les Juifs doivent se battre pour faire de la France un endroit sûr pour tous les citoyens français, quels qu'ils soient. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Netanyahou quand il a dit ça.
parce qu'un peuple sans terre n'a pas d'audience.
Merci à nos invités. Marceline Laurie dans Events, Et tu n'es pas revenu, apparu aux éditions Grasset. Edgar Quéret, Cette année de bonheur, c'est aux éditions de l'Olivier. En attendant la version poche chez Point, ce sera en juin prochain avec une nouvelle inédite. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Adios. Adios. Adios to your afternoon. Tonight I'll be forever following the Colosseum move.
Demain, une émission musicale avec la session live de Benjamin Clementine. À ses côtés, Laurent Bounot, qui est le directeur des programmes de Skyrock. Des annonces, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Manou Farine et Seth Wendoy, Hippolyte Babilote, Journal de la Culture en Zoé Sfès, Chronique Xavier Delaporte, à l'interprétation Xavier Combe, à la prise de son Dauphin Guéride et à la réalisation Thomas Beau.
Il est l'heure de nous quitter, vous êtes bien sur France Culture. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors, bonne soirée à tous.